Radio Campus 106.6 FM. Bien, nous allons parler aujourd'hui changement climatique avec Monsieur Majid Taki, qui est vice-doyen en charge de la recherche à la Faculté des sciences et technologies de Lille. Bonjour Monsieur Taki.
Bonjour.
Donc voilà un thème, changement climatique, risques et solutions, état des lieux des connaissances scientifiques. Ce sera une conférence qui aura lieu très prochainement, mais complète. Il n'y a plus de place, c'est ça?
Oui, il n'y a plus, oui. On a eu un immense succès, même avec les conditions actuelles de Covid et tout cela. Donc, et finalement, on a eu pratiquement, toutes les places étaient prises au bout pratiquement de 2 heures. Voilà, donc, on a dû refuser pas mal de monde.
Bah oui, donc
on est vraiment désolé pour ça.
On va essayer aujourd'hui d'anticiper un peu sur ce qui sera demain, mais que tout le monde n'aura pas le bonheur d'entendre, pour présenter ce thème-là, qui est un thème, j'allais dire, plus que d'actualité.
Mais par contre, pour toutes les personnes qui n'ont pas pu s'inscrire, on va faire une captation, en fait, en même temps, et que ce sera diffusé. On a mis des gens dans un autre amphi à l'Iliade.
Oui.
Et en même temps, ça sera sur le... Ils peuvent suivre en direct un site web.
Voilà.
Et que sur le site web de l'université, ils peuvent en fait télécharger et regarder la conférence en différé.
Voilà. Donc, l'Iliade sera ouvert demain.
Oui.
Et on pourra assister à la conférence en simultané, c'est ça?
Oui, exactement. Écrans, hein. Exactement.
Donc, on va dire pour les gens qui s'intéressent qu'à l'Iliade, il faut s'inscrire ou pas?
C'est déjà inscrit, on a la liste complète, les gens qui sont inscrits, on a une liste. Et donc, on ne peut pas venir à l'Iliade si on n'est pas inscrit.
Voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire un condensé de l'état des lieux en ce qui concerne au moins l'Université des sciences et technologies de l'Université de Lille sur ce sujet qui est, brûlant d'actualité.
Oui, oui c'est, comme vous le savez, actuellement, le changement climatique est une thématique qui est très importante, pas uniquement pour nous, Français, mais elle est très importante pour la planète. Et donc, vous voyez un peu tout ce qu'on observe actuellement et qui intrigue. Et donc, l'objectif de la Faculté des sciences, c'est en fait donner la parole à quelqu'un qui est mondialement connu et qui, effectivement, a travaillé pendant des années sur ce sujet-là. C'est Mme Valérie Masson-Delmotte, et qui, en fait, elle a des arguments, des données, un raisonnement scientifique. Et donc, ça permet un peu de, entre guillemets, donner des arguments forts, scientifiques et bien construits, et réels, pour informer un peu les gens, pour couper court un peu à tout ce que les gens peuvent raconter par-ci ou par-là. Sont vraiment des connaissances, sans que ce soit des connaissances scientifiques.
Donc voilà, cette personne, elle est directrice de recherche au Commissariat à l'énergie atomique. Est-ce qu'à l'Université de Lille, on a des spécialistes, justement, sur ces domaines de changement climatique?
Oui, j'ai appris par Mme Valérie Masson-Delmotte et par d'autres personnes qu'il y a des laboratoires, effectivement, qui ont des projets très intéressants, reconnus sur le plan national aussi, international, sur l'environnement. Donc, il y a plusieurs laboratoires qui sont spécialisés là-dedans et qui connaissent bien cette personne et qui seront là aussi.
Donc, j'imagine aussi, en plus de faire l'état des lieux de la science, c'est aussi de couper court à certaines rumeurs ou certaines fake news.
Oui, exactement. C'est ça l'idée. Comme le sujet actuellement est un sujet qui est chaud, beaucoup de gens parlent du changement climatique, des risques, des problématiques, la problématique climatique d'une manière générale. Et donc, moi, mon avis, et je suppose que c'est aussi l'avis de la plupart des gens et de la FST, c'est en fait installer plutôt un raisonnement scientifique basé sur des données et du travail scientifique d'investigation ou de recherche qui permet aux gens d'avoir des arguments réels, vérifiés, et de ne pas uniquement avoir des informations, des fois d'ailleurs qui sont fausses, sur le climat, sur l'augmentation de la température et tout ça.
Alors c'est vrai qu'il y a pour les personnes, souvent l'idée de s'en référer à leur propre univers localisé, très localisé parfois, et se dire, tiens, il fait froid en ce moment, c'est pas un signe de réchauffement de la planète. Par contre, pendant tout l'été, ils ont eu très chaud, ils se sont dit, vraiment là, ça va plus du tout, quoi.
Oui, il y a des changements, on observe des changements et toute personne peut observer des changements. Donc, effectivement, il y a parfois des inondations plus que ce qu'on a vécu avant. C'est légitime, c'est tout à fait normal. C'est des observations aussi qui sont importantes. Mais ce qu'il faut, c'est pour que ce soit vraiment un travail de sérieux, il faut que ça soit en fait fait à grande échelle et analysé avec des outils qui sont scientifiques. C'est la meilleure manière qu'on a aujourd'hui pour découvrir la réalité ou pour avoir des conclusions. C'est en fait un travail et un raisonnement scientifique. Moi, je ne vois pas d'autres raisonnements qui peuvent nous aider à mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. Et donc, ce raisonnement scientifique, on le voit bien évidemment, autour de... C'est une directrice de recherche CEA et qui a travaillé pendant des années. Elle a fait des modèles, en fait, sur le climat. Elle est reconnue sur le plan international. Elle est co-directrice, en fait, du GIEC, qui est très connue, et qui font, en fait, du travail avec des rapports sur le climat et l'impact sur le futur du climat. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment au cœur de la problématique du changement climatique.
On a entendu quelques, on va dire, personnalités qu'on considère maintenant un peu comme climato-sceptiques. Ça vous parle ?
Oui.
Ils sont parfois des scientifiques.
Oui.
Comment on peut être climato-sceptique par rapport à d'autres qui seraient tout à fait plus, on va dire, dans la réalité des choses ? Est-ce que c'est possible d'imaginer deux conceptions qui s'opposent pour une même réalité ?
Moi, de toute façon, je ne suis pas du tout climato-sceptique et je pense que c'est une réelle problématique du climat et du changement de climat. Et puis, il y a des gens qui travaillent depuis des années. Donc, c'est vrai qu'il y a des climato-sceptiques, même au niveau des scientifiques. Le fait peut-être qu'il y a des gens, mais là, je m'avance un petit peu, c'est parce que il n'y a pas encore de preuves irréfutables comme ce qu'on peut faire en mathématiques et autres, une démonstration que c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Pour le moment, il y a des analyses et des données et des raisonnements et des résultats qui montrent qu'effectivement, on va vers un changement climatique qui peut être très dangereux pour la planète. Mais il y a des gens qui contestent un tout petit peu. Mais ce sera une très bonne question à poser demain à Mme Valérie Masson-Delmotte parce qu'elle aura probablement une réponse beaucoup plus claire. Parce que moi, je ne suis pas spécialiste dans le domaine.
Est-ce qu'il y a, comme dans d'autres domaines, des influences, peut-être, pourquoi pas, de la religion ou des choses comme ça, qui peuvent faire modifier la conception même, sinon de la recherche, du moins de la vision de l'avenir dans le domaine scientifique ?
Ça, je ne peux pas répondre à ce genre de questions. Je ne sais pas du tout le lien avec la religion. Bien évidemment, des gens peuvent voir ça comme quelque chose qui est un peu bizarre, qui arrive à l'humanité et tout. Mais moi, je ne suis absolument pas dans ce genre de raisonnement. Moi, je préfère faire un raisonnement plus scientifique sur le terrain, avec des observations et avec des spécialistes formés, avec des connaissances et tout ça. Ça nécessite beaucoup de temps et de travail. Et en général, c'est pas aussi simple qu'avoir des concepts type religieux et les appliquer. C'est beaucoup plus compliqué que ça, à mon avis.
Alors, c'est vrai qu'on a l'impression qu'actuellement, on est dans un cycle, peut-être, ou une fin de cycle, qui va émerger peut-être, d'où va émerger peut-être un autre monde, pourquoi pas. On ne sait pas trop. La nature, de toute façon, continuera d'exister avec ou sans chauffage.
Bien sûr.
Donc, à partir de là, c'est plutôt l'homme qui est en jeu, sa survie.
Ben oui, exactement, je pense aussi. Ça, c'est mon point de vue personnel. La nature, elle est ce qu'elle est, elle s'adaptera. L'être humain, ça fait une des parties, des plusieurs parties d'ailleurs, de la planète et de l'univers. Et donc, en fait, c'est plutôt la survie et l'avenir de l'être humain. La planète, bien évidemment, il faut prendre soin de la planète, mais c'est nous, essentiellement, qui vont en pâtir au cas où il y a des problématiques et notre vie future, elle serait peut-être très impactée.
Bien sûr. Donc là, on est sur des économies d'échelle. Enfin, on va dire qu'il y a des durées. La durée de vie de l'homme, des générations, c'est relativement court par rapport au cycle,
oui,
notamment au cycle du climat, etc. Comment vous voyez les choses de ce côté-là ?
Si vous prenez par exemple ce que dit Madame Valérie Delmotte dans ses travaux et ce qu'elle m'a envoyé comme résumé dans ce qu'elle fait. Et là, elle fait en fait des elle travaille sur la manière de quantifier, c'est-à-dire de mesurer et de comprendre les mécanismes de variation du climat et du cycle de l'eau à des échelles de temps qui peuvent aller des derniers siècles aux derniers millions d'années. Donc, vous voyez, c'est une étude quand même longue parce que ce n'est pas du tout à l'échelle de la vie humaine. C'est une échelle vraiment planétaire au-delà de ce que peuvent vivre les êtres humains. Et là, il fait ça à partir d'analyses géochimiques de glace, polaire, et d'un autre croissance d'arbres ou alors d'observation in situ. Et donc, ça lui permet d'utiliser ces informations pour évaluer des modèles de climat et faire des projections sur l'évolution future. Donc, en fait, ça part de très, très loin parce que les études, en fait, c'est sur des années, les échelles de temps sur lesquelles on peut travailler pour ces thématiques-là, ils sont très, très, très variables, qui peuvent aller de nous, les dernières années, où on a vu des changements qui, des fois, sont brusques et soudains, jusqu'à ce qu'on sait par ces études-là, il y a des millions d'années.
Alors, donc, c'est vrai que c'est peut-être plus facile de prouver ou de démontrer ou de mettre en considération la disparition de certaines espèces animales, par exemple. Ça, c'est évident.
Oui, oui, ça c'est possible. On le voit. Donc, il y a des études actuellement qui montrent qu'il y a des extinctions des espèces et tout ça. Je pense que tout ça, c'est lié.
Et donc, l'impact de l'homme sur, justement, ces disparitions semble incontournable. Enfin,
Je pense que l'impact de l'homme est très, très important sur ça et que j'espère qu'il y a quand même que l'on peut agir positivement, qu'il y a des possibilités, effectivement, pour qu'on soit conscient de ce qu'on peut faire comme mal à la planète et à notre vie et qu'on peut corriger le tir, qu'il est peut-être encore temps pour corriger le tir et qu'on n'est pas dans des situations irréversibles. En tout cas, c'est mon souhait.
Alors, Majid Taqi, on imagine qu'à l'université, on se penche sur toutes ces questions. Est-ce que vous ressentez, parmi la population de l'université, c'est-à-dire les étudiants au départ, mais aussi les doctorants, les chercheurs, plus d'appétit ou d'intérêt pour ces questions-là qu'il y a 10 ou 20 ans ?
Ben, je pense que moi, c'est la première fois que je vois, en organisant une conférence, que je vois l'engouement des gens. Donc, je répète, en 20 minutes, on a eu pratiquement cinquantaine, soixantaine de personnes. Et en 2 heures, on a rempli toutes les places. Donc, c'est très rare. D'habitude, les conférences organisées, il y a 50, 100 personnes. Et là, c'est malheureusement, il y a le Covid et on ne peut pas les amphis à l'Iliade. C'est des amphis de 300 et un autre de 300. Donc, on ne peut pas mettre plus que 200. Et je crois que si on n'était pas dans des conditions exceptionnelles de gestes barrières et tout ça, on aurait rempli des amphis de 500, 600 personnes. Moi, vraiment, j'étais étonné parce que je pensais avec la Covid et les conditions exceptionnelles, les gens ne vont pas se déplacer. Et ce qu'on a observé, c'est tout à fait le contraire. Et donc, je pense aussi que... Alors là, on a laissé libre, les gens s'inscrivent, puisqu'on a envoyé l'annonce à tout le personnel de l'université. Donc, que ce soit des étudiants ou des enseignants et autres, ils pouvaient s'inscrire. Je pense qu'il y a beaucoup d'engouement de la part aussi des jeunes pour cette problématique du changement climatique.
Voilà, je pense qu'aussi cet engouement est lié à plus que des impressions, que leur survie et la survie des prochaines générations en dépendent.
Exactement. Je pense que là, si on regarde par exemple les études faites par le GIEC et donc dont Madame Valérie Masson-Delmotte est un des représentants et un des... Elle est co-présidente de ce groupe et de le groupe essentiellement qui travaille dans le domaine en fait des géosciences et dans le pardon et donc en fait qui s'occupe des bases physiques qui peuvent expliquer cela. Donc là il y a quand même une accumulation de pas mal d'informations et de données qui vont dans le sens d'un réchauffement climatique.
Alors justement, ce GIEC, c'est un groupe d'experts intergouvernemental sur cette question du climat. On peut évidemment imaginer qu'il y a des connexions fortes entre la recherche et aussi l'État, puisqu'il est amené à prendre des décisions, parce qu'on est déjà dans le futur pour pas mal de décisions et l'engagement des États en Europe ou dans le monde.
Oui, alors par exemple, si on prend le cas des dernières années, Madame Valérie Masson-Delmotte a co-supervisé 3 rapports spéciaux sur 1,5 degré Celsius de réchauffement planétaire, sur l'océan et la cryosphère et sur le changement climatique et l'usage des terres. Donc, et après, un autre rapport principal qui est en cours de finalisation actuellement, qui donne pas mal de résultats. Et là, dans ce rapport, il y a 230 auteurs de 60 pays différents. Et donc, ça a commencé depuis... et qui sera normalement fini en 2021. Alors, bien évidemment, le GIEC, il a pour mandat d'évaluer l'état des connaissances scientifiques de manière neutre et non prescriptive. Donc, il y a quand même une indépendance, même si c'est un organisme qui regroupe les États. Et on peut peut-être comprendre pourquoi, mais il est quand même totalement indépendant. Et c'est les scientifiques qui font leur rapport et qui font les conclusions et les recommandations.
Alors, ces scientifiques, comment on peut situer dans ce domaine-là, climatologie, on va dire, d'une manière générale, où sont les scientifiques? Ils sont dans des labos de recherche des universités, dans des écoles d'ingénieurs, ou ils sont dans des entreprises en recherche-développement?
Les deux, essentiellement, ils sont dans les écoles d'ingénieurs et dans les laboratoires des organismes de recherche. Alors, il y a probablement, mais je ne suis pas au courant de s'il y a des entreprises privées. Probablement qu'il y en a, mais je ne veux pas dire de bêtises. Je ne sais pas, mais je sais qu'il y a des laboratoires et puis il y a aussi des organismes d'État qui travaillent sur en fait, cette problématique. Là, par exemple, c'est des directeurs de recherche au CEA, au CNRS. En fait, c'est les organismes connus internationalement et tout ça, de recherche au niveau de la France. Ils travaillent en collaboration aussi avec des organismes à l'étranger, d'autres pays européens et États-Unis et autres.
Alors, justement, par rapport à l'international, est-ce que la France est toujours dans les grands pays de recherche et est-ce qu'elle a les moyens de le rester?
Oh, c'est une question très difficile. Moi, je ne veux pas faire de politique, mais dans le domaine que je connais, il y a des domaines où la France excelle et qui est parmi... il y a des recherches qui sont vraiment au top. Je ne veux pas tout énumérer. Il y a probablement d'autres thématiques de recherche où on n'est peut-être pas les plus... les plus en vue, mais il y a quand même pas mal d'endroits où... De toute façon, la France est présente partout, et ça, c'est déjà très bien. Donc, toutes les recherches, on a des chercheurs dans toutes les thématiques, mais il y a des thématiques qui sont vraiment très... La thématique là du climat, je crois que Mme Valérie Masson-Delmotte, elle a fait partie des 10 scientifiques ayant compté dans le monde en 2018 sur la revue prestigieuse Nature. C'est la revue... Et donc, en fait, elle était parmi les 10 personnes dans le monde qui sont, en fait, qui comptent dans ce... Donc, ça veut dire que la France est bien représentée dans ce domaine-là. Bon. Mais elle est bien représentée dans d'autres domaines scientifiques de la recherche.
Très bien. On imagine évidemment que sur ces sujets-là, l'ensemble de la planète se questionne et doit trouver des solutions en commun. On ne peut pas imaginer un pays qui s'accapare, on va dire, cette spécialité. Ce n'est plus possible.
Oui, voilà. Ça, c'est vraiment la nouveauté pour ces problèmes climatiques. Parce qu'avant, on faisait de la recherche, on fait peut-être des choses qui dépendent du pays, on invente des choses qui marchent très bien et après on les vend aux autres. Mais là, c'est vraiment un problème qui concerne tous les êtres humains et qui est sur toute la planète. Donc, tout le monde doit se lier et travailler en fait main dans la main pour essayer de trouver des solutions. Parce que la question, elle est globale, humanitaire, planétaire, et on ne peut pas la prendre par un petit bout et pas un autre.
Alors, on va rappeler donc cette conférence « Changement climatique, risques et solutions, état des lieux, des connaissances scientifiques » a lieu demain, hein, de 11h à 12h30, que le thème est, donc on l'a dit, « Changement climatique » avec l'intervention de Valérie Masson-Delmotte, qu'elle sera enregistrée pour ceux qui ne pourront pas y assister en direct,
exactement.
Et qu'elle sera en accès libre, gratuit et téléchargeable
exactement.
sur le site de l'Université de Lille.
Exactement. De toute façon, on est un service public
et
on est pour la diffusion des connaissances. Ça, ce sont des connaissances et qui doivent être libres pour tous les gens. Et donc, notre rôle aussi, c'est de donner plus la parole à des gens qui, en fait, sérieux dans leur travail et qui donnent, en fait, des preuves de ce qu'ils disent. Donc, ça permet de mieux diffuser les connaissances et de ne pas laisser la place à des choses qu'on peut dire comme ça dans les couloirs dans les
bars.
Donc,
à faire connaître au plus grand nombre.
Voilà, et faire connaître au plus grand nombre. Mmh. Donc, en fait, ce sera enregistré et ça sera libre. Toute personne, il peut aller sur le site de l'université et peut télécharger la conférence. On est juste désolé qu'on ne pouvait pas faire plus et qu'on ne pouvait pas avoir plus de personnes. Je crois que tout le monde comprendra que les situations actuelles sont des conditions un peu exceptionnelles. Et donc, on a fait au mieux.
Bon. Donc, on va dire que cet événement est porté en termes de structure par votre faculté ?
Oui, c'est exactement la faculté des sciences et technologies qui est représentée par son doyen Christophe Wistecker. Et moi, je suis vice-doyen à recherche. Et donc, en fait, il y a d'autres vice-doyens, mais donc, en fait, elle est portée par la faculté des sciences et ça rentre dans le cadre de l'animation de la recherche au sein de la faculté des sciences et technologies de Lille.
Alors, est-ce que dans l'année, il y aura d'autres rendez-vous ?
C'est une bonne question aussi. Dans l'année, on avait prévu, en fait, aussi une demi-journée de la recherche. Mmh. Et cette année, on voulait faire parler des disciplines différentes et des composantes ou des facultés différentes. Donc, cette demi-journée de la recherche, elle va en fait regrouper des chercheurs de la faculté des sciences et des chercheurs de la faculté de santé. Mmh. Et malheureusement, c'était prévu pour le mois de juin. Malheureusement, vous le savez très bien qu'on était confinés et qu'on ne pouvait plus. Donc, on l'a reporté. Mmh. Notre espoir, c'est de pouvoir la réorganiser ce printemps. Et donc, on verra les conditions, comment ils vont évoluer. J'espère dans le bon sens. Et normalement, il est prévu une autre demi-journée de la recherche, mais cette fois entre l'AFST et la faculté de santé.
Alors, M. Majitaki, donc, pour conclure cette émission, est-ce que vous êtes en recherche, soit de ressources économiques, financières, ou de recherche de personnes, de personnel, de ressources humaines actuellement ?
Ben actuellement, notre problème principal, effectivement, j'allais dire les deux en général, mais actuellement, comme vous le savez, il y avait, du point de vue ressources humaines, il y a une crise au niveau des universités, en particulier l'Université de Lille. Et donc, on n'arrive pas à renouveler tous nos postes, c'est-à-dire les départs à la retraite. Actuellement, par exemple, cette année, ça va un petit peu mieux puisqu'on a eu quelques postes. Par exemple, on a eu 9 postes sur 11. Mais ça, les ressources humaines sont extrêmement importantes pour l'avenir parce que la recherche, il faut absolument qu'elle soit renouvelée. Donc, il y a des doctorants, il faut du sang neuf. Sinon, on reste entre nous, ça sclérose et puis on a toujours les mêmes idées. Quand il y a un doctorant qui arrive, il a aussi sa manière de voir, de penser et il permet énormément à ce que le groupe, globalement, évolue, et pas toujours dans la même direction. Donc, on a besoin à tout ce que les doctorants qu'on forme, et puis autres, puissent avoir un poste et continuent la recherche qu'on fait actuellement. Ça, c'est un vrai problème d'avenir, parce qu'il faut qu'on arrive quand même à régler ce problème dans l'avenir et avoir un nombre de postes suffisant pour continuer dans notre recherche de qualité. Alors, après, le budget, c'est toujours pareil. Le budget qu'on a actuellement, on arrive à faire ce qu'on doit faire. Mais si on a un budget un peu qui augmente, on serait peut-être beaucoup plus à l'aise et on formera peut-être mieux nos étudiants et on fera peut-être mieux notre recherche aussi.
Voilà. Et du côté des étudiants, est-ce que vous jugez qu'actuellement, l'engouement est suffisant pour former les futurs cadres et les futurs chercheurs dont on a besoin ?
On en a toujours. Il y a toujours des étudiants qui sont très intéressés par la recherche. Et donc, en fait, dans toutes les disciplines, ça se fait au niveau des masters et des doctorats. Il y a toujours des étudiants qui sont très intéressés par la recherche et tout ça. Mais malheureusement, pour ces étudiants-là, il faut les déboucher.
Bien sûr.
Actuellement, ça devient un peu plus délicat parce qu'il faut faire un doctorat. C'est déjà en fait 8 années de travail, c'est bac plus 8. Après, souvent, il faut qu'elles fassent leurs preuves avec 2 années de travail dans un autre labo que celui qui les a formés pour montrer qu'ils sont vraiment faits pour la recherche. Ça en fait 10. Vous voyez qu'après, on arrive à un certain âge, mais même à l'issue de ça, tous ces doctorants et tout ça ne trouvent pas de travail, de recherche à l'université. Donc, c'est une vraie problématique d'avenir.
Alors, une question subsidiaire, on va dire. Est-ce que les doctorants qu'on forme ne risquent pas d'échapper, d'une certaine manière, à notre patrimoine en allant à l'étranger ?
Oui, il y en a pas mal. Et souvent, des fois, c'est les meilleurs qui trouvent effectivement des propositions à l'étranger. Il y a pas mal de... Des fois, il y en a aussi qui vont à l'étranger pour un contrat de 2 ans. C'est ce qu'on appelle un post-doc, c'est-à-dire post-doctoral. C'est un travail de recherche au-delà, après avoir fait un doctorat, ou préparé un doctorat. Et puis, il y a pas mal de ces étudiants-là qui restent à l'étranger. Moi, j'ai formé des étudiants qui ne sont jamais revenus. Une qui est allée en Australie, maintenant elle est en Suède, et d'autres qui vont ailleurs parce qu'ils trouvent du travail, ils se plaisent, et puis ils restent là.
Voilà, c'est un investissement malheureusement.
C'est dommage, exactement.
Perdu, hein.
Exactement, parce que vous vous rendez compte, en fait, on les forme, donc un peu. Ils sont formés quand même en France, vous savez combien ça coûte un peu l'enseignement, plus l'université. Et donc, s'ils ne reviennent plus, s'ils partent complètement, c'est toute cette formation-là qui va ailleurs, qui a coûté énormément pour l'effort global du pays.
Voilà.
Donc, on n'a pas intérêt à continuer dans cette direction-là. Il faut les rapatrier, il faut les ramener.
Bien sûr, les motiver. Alors, donc, pour conclure, M. Majid Taki, on va dire que tout problème scientifique est a priori un sujet d'interrogation pour vous et de recherche au niveau de l'Université de Lille.
Oui.
Et donc, là, on a un exemple concret. Il y en aura d'autres qu'on présentera, je l'espère, dans l'année.
Oui.
Et on vous remercie beaucoup d'être venu.
Eh bien, écoutez, c'est moi qui vous remercie. Et merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'université et le fait d'avoir une tribune pour pouvoir un peu... exposer aux gens en fait le travail qui est fait au niveau de la cité scientifique et de la fac de sciences et technologies.
Je vous remercie et nous aussi on pense au ressourcement de nos ressources humaines.
Oui, d'accord.
on a des jeunes qui s'intéressent beaucoup à la radio et
oui.
Je pense que là aussi il y a un champ d'exploration nouveau pour des jeunes qui voudraient à la fois s'exprimer, témoigner aussi de ce qu'ils connaissent au travers de ce média, qui est parfois à remettre au goût du jour.
Oui, ben, c'est très bien. Et ben, je reviendrai peut-être vous voir quand on aura organisé la demi-journée, par exemple, de la recherche ou d'autres demi-journées. Et ça sera avec plaisir.
Volontiers. À très bientôt, donc.
Merci.